Campagne, bonjour. Nous sommes toujours dans les Deux-Sèvres cette semaine, un département qui se met à l'heure de la lecture pendant plus de deux mois en faisant cheminer la littérature à travers les campagnes. Ça s'appelle Terre de lecture, lecture au pluriel, et c'est à partager jusqu'à la fin novembre dans les bibliothèques et avec les bibliothèques des Deux-Sèvres. Le concept est séduisant, riche en déclinaisons comme des siestes sonores, des balades, des conférences, des ateliers, des voyages en poésie poitevine, voire des diffusions de films et des spectacles d'impro déambulatoires. Le programme très fourni et détaillé sur le site de la médiathèque départementale, dont le lien s'affiche à nos pages d'émission. Invité de ce mardi, Cédric Fontenot, animateur culturel dans un lycée de Bressuire. Cette mission, qui a changé de nom depuis peu, demeure une spécificité de l'ancienne région Poitou-Charentes. Et puis Hélène Braconnier, éleveuse associée au renouveau d'une fromagerie que nous avions défendue et supportée, fromagerie coopérative du pays Motet, qui redonne vie aux traditionnelles chèvres-boîtes.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Cédric Fontenot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un métier rarissime, en tout cas assez rare en France, mais développé depuis 10 ans dans l'ex-région Poitou-Charentes. C'est le métier d'animateur culturel en lycée.
Tout à fait. L'éducation populaire en lycée, qui est née il y a plus de 10 ans maintenant en Poitou-Charentes.
Ouais. Maintenant, on vous appelle référent initiative éducative régionale.
Voilà, ouais, c'est une décision politique, ouais, de la région Nouvelle-Aquitaine, ouais, de changer l'intitulé du métier sur encore des domaines d'éducation artistique en lycée, quoi.
Ouais. Alors, qu'est-ce que fait un animateur culturel en lycée?
Ben, l'animateur culturel en lycée, il est un peu là pour faire du lycée un lieu de vie, déjà, pour les élèves, qu'ils prennent en main la vie de cet établissement. À Bressuire, on est éloigné des centres urbains avec quelques CSP défavorisés. Donc en fait, le but, c'était de faire venir aussi la culture dans, oui, l'établissement.
Et ça veut dire faire venir la culture, c'est organiser des ateliers, avoir des événements culturels au sein de l'établissement?
Exactement, c'est faire venir des artistes en lycée. C'est aussi donner des moyens aux élèves pour créer des clubs. Par exemple, un club presse, il y a un journal lycéen qui s'appelle Le Petitissimo. C'est donner les moyens d'avoir une vraie salle de musique équipée pour faire vivre la musique. Et puis, c'est l'occasion au lycée de créer un groupe, etc. Qu'on peut accompagner, nous, et qui peut se professionnaliser ou pas. Mais en tout cas, de donner les moyens aux jeunes de réaliser un peu leur rêve, quoi, enfin, ou leur passion, quoi.
Ouais. Pourquoi ce métier, cette démarche, que l'on trouve évidemment très saine, très utile, voire nécessaire, ne s'est développée que dans l'ex-Poitou-Charente et pas dans les autres régions?
Alors là, c'est vraiment lié à la politique, à mon avis, régionale. Nous, c'est né ici, il y a maintenant plus de 10 ans, il y a eu un enfant jeune au lycée qui a créé toute cette émulsion, en fait, qui venait lui aussi de l'éducation populaire, donc qui a passé son DEFA, etc., ici, maintenant DEGEPS. Et du coup, je pense que cette initiative dans l'établissement a créé un peu cet engouement et cette envie d'apporter la culture dans les lycées à l'ensemble d'un territoire comme la région Poitou-Charentes. Après, c'est vrai que dès que je parle de mon métier en dehors de la région, ben les gens sont intéressés en fait et se disent ben non, moi dans mon lycée j'avais pas d'animateur, et c'est vrai que c'est intéressant quoi quand on parle de tous les événements, genre le festival qu'on a au lycée qui a 18 ans, donc existait même avant encore un emploi jeune qui est l'initiative d'un surveillant et d'une CPE qu'on décidait de faire une fête des internes un peu plus emblématique quoi on va dire. Eh bien, c'est développé, il a 18 ans, il avait 18 ans cette année. Et donc, c'est vraiment une vitrine quoi, de tous les talents d'un établissement. Mmh.
Et ce festival s'appelle le FACS, le Festival Artistique de la Cité Scolaire, parce que vous êtes, Cédric, deux animateurs dans c'est cette ça. Cité scolaire. Il y a le lycée Maurice Genevoix, vous êtes à Bressuire, mais aussi le lycée professionnel Simon Signoret et le lycée professionnel Vinci.
En gros, tous les lycées publics... du territoire, donc ça fait une grande cité scolaire. Ouais.
Et ça fait une énorme population à gérer, si je peux me permettre l'expression.
Bah ouais, ça fait pratiquement 1500 élèves, plus évidemment, nous on travaille pas qu'avec les élèves, on travaille évidemment avec la vie scolaire, avec les professeurs, les agents, donc oui, ça fait une vraie cité, quoi. C'est bien pour ça que toute l'éducation populaire a sa place ici, pour faire vivre cette cité, quoi, ou qui est tellement grande, donc c'est important de faire vivre tout ça, quoi. Que ce soit pas juste un lieu de passage et un lieu austère, mais que ce soit un lieu de vie, quoi.
Ouais. Ouais. Bel exemple d'éducation populaire dans des établissements publics. Et le seul souci, c'est que est-ce que ce sont des conditions financières qui imposent ça? C'est la réduction des postes?
argument, évidemment, c'est évidemment l'argument financier. Je ne sais pas trop le pourquoi du comment, mais c'est vrai que la réalité est là, en tout cas. Mmh. Et je la trouve dommageable, évidemment, parce que moi, je crois en mon métier en éducation populaire en lycée. On continue, on essaye de faire vivre ces moments-là. On a beaucoup de partenaires sur le territoire, donc voilà, on fait appel aussi aux associations qui impulsent aussi tout ça. Il y a des référents culturels, des professeurs référents culturels dans les établissements. Donc voilà, on continue avec les moyens dont on dispose. Mmh.
Une dernière question, Cédric. On est formé comment pour devenir animateur culturel? On doit passer par quel site de formation?
Ben, en fait, j'ai le parcours un peu classique de l'animateur socioculturel avec BAFA, BPJEPS, voilà. Enfin, on parle de l'animation volontaire, je veux dire, oui. Colonie de vacances, centre de loisirs, etc., à l'animation plus professionnelle en centre socioculturel, maison de quartier, voilà. Puis après, des niveaux encore Bac plus 2, etc. Mais j'ai des collègues qui viennent plutôt de milieux culturels. Voilà, il y a différents profils dans tous les animateurs culturels.
On vous souhaite une très bonne rentrée, Cédric.
Merci.
Bon courage et continuez.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne continuation à votre émission aussi.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Je commençais tout à l'heure par le livre, je continue avec le livre. Mais tout d'abord, une question, je ne sais si vous connaissez le Kamishibai. Alors, personnellement, je le découvre grâce au courrier de Stéphane, président de la jeune association niortaise Le Voyage de l'Arbre à Lire. Donc le Kamishibai se traduit littéralement par pièce de théâtre sur papier. C'est un art du conte propre à une tradition nippone qui s'est exportée jusque dans les Deux-Sèvres pour sensibiliser les enfants à l'environnement et plus généralement à l'écologie. Ce petit théâtre permet d'écrire, d'illustrer et de lire des histoires sur le thème des arbres et de la nature. Le premier objectif d'ailleurs de l'association était de lire des albums aux enfants dans tous les horizons, dans les hôpitaux, les centres aérés ou dans les écoles. Et comme la lecture ne suffisait pas, l'association a fait le choix d'écrire ses propres contes. L'arbre demeure néanmoins au centre des créations et animations du collectif, à commencer par un recensement en forêt des arbres remarquables. À l'image du végétal, l'association construit un réseau de racines qui ouvre les initiatives à d'autres expressions et partenariats, le dessin, la photo, la musique, la sculpture, et qui permet d'agrandir le cercle des messages que la nature nous transmet si on sait l'écouter. C'est vrai que ça peut paraître banal ou accessoire, c'est comme on veut, mais j'apprécie à l'heure où l'écologie est politiquement bousculée et où les regards sont tournés vers les écrans plats, cette approche poétique avec ce voyage de l'arbre à lire, arbre trait d'union à trait d'union lire.com pour l'adresse. Hélène Braconnier, bonjour.
Bonjour.
Hélène, vous êtes une éleveuse de chèvres à Soudan, éleveuse heureuse, associée à la coopérative fromagère du pays Motet, avec la naissance d'une fromagerie du pays des Murets. C'est tout récent, ça date du mois de juin dernier. On en avait parlé parce que chez vous, il y avait une vieille tradition, une laiterie centenaire avec un fromage traditionnel des Deux-Sèvres, dont la production s'est arrêtée en 2014.
Et oui, on avait eu peur de voir disparaître ce savoir-faire. Et puis, grâce à l'aide de toute la population locale, des élus, du préfet aussi, à l'époque, il nous a beaucoup aidé à réunir tous les protagonismes dont dépendait notre projet autour d'une table. Les banques ont fini par accepter de financer notre projet. C'était ce qui manquait, puisque la région avait aussi participé. Et voilà. Mais fin janvier 2017, eh bien, les choses se sont décantées. Et on a pu enfin commencer la construction de notre fromagerie à la mode Saint-Héré.
Oui. Plus de 2 millions d'euros d'investissement.
Oui.
Comment vous avez pu atteindre ce niveau-là? Parce que c'est quand même, c'est conséquent, c'est important pour vous. Vous êtes quelques producteurs, il y a d'anciens salariés de la laiterie, il y a des consommateurs, il y a des élus, il y a des partenaires. Certes, mais quand même.
Ouais, la région aussi a subventionné, le FEADER, et puis, par exemple, la construction s'est faite avec des artisans locaux, bon, ou régionaux, parce que très localement, il y a des savoir-faire qui nous manquaient, mais ces gens-là aussi ont investi, ils ont mis un petit pourcentage dans la fromagerie pour aider à ce que ce projet aboutisse. Donc, en ajoutant toutes ces petites choses, eh bien, on a réussi à récolter ces 2 millions d'euros.
Ouais. Voilà. Et ça donne le renouveau du chèvre-boîte.
Alors, c'est le chèvre-boîte, oui, qui est notre produit phare. On décline une gamme de fromages avec du pur chèvre, du mi-chèvre et du vache, parce qu'en fait, dans la région, les vaches et les chèvres se côtoyaient depuis très longtemps. Et on est une des seules de régions en France où il y avait une collecte de lait de chèvre et de lait de vache dans les années 60-70, dans les mêmes laiteries. Mmh. Et donc, on a voulu garder aussi un petit peu cette tradition. Et on fait une gamme alors le fameux chèvre boîte qui est notre produit phare, mais on fait aussi du mi-chèvre, qui est un fromage où le lait de vache et le lait de chèvre se marient merveilleusement. L'onctuosité de l'un et le goût un peu et la finesse du chèvre font que ça fait un produit très particulier et très goûteux également. Et on a aussi tenté, hein, pourquoi pas, un vache de chez nous, un vache du Poitou. Voilà. Alors ça et donne... on la décline aussi en faisselle.
Et alors, ça correspond à combien d'éleveurs et combien de personnes à la fromagerie?
Alors, pour l'instant, en chèvre, il y a 7 éleveurs qui livrent leur lait. On prend du lait de vache à 2 éleveurs locaux aussi, qui étaient inscrits en bleu-blanc-couleur. La fromagerie, pour l'instant, nous avons 10 salariés. Et puis on a aussi un VRP qui s'occupe de la vente de nos fromages qui sont commercialisés de La Rochelle à Chauvigny, de Thouars à Angoulême. Et dans cette zone-là, en Poitou-Charente, on recueille 150 magasins qui achètent nos fromages.
Et alors, on peut insister sur la qualité, hein. C'est vraiment des animaux, chèvres ou vaches qui sont élevés en prairie, avec une qualité, pas d'huile de palme, pas d'OGM, là vous assurez.
Alors effectivement, on fait notre fromage est fait au lait cru, hein. Le lait c'est un produit noble et vivant, et on veut respecter cette microflore naturelle qui est essentielle pour le goût et l'arôme de nos fromages en fait. Et puis on fait partie de l'association Bleu Blanc Cœur. On a un cahier des charges, hein, qui est très très important. Nos animaux sont nourris avec du foin de luzerne, des prairies naturelles, des céréales, des graines de lin, lupin, du pois. Et tout ça, nous cultivons dans nos champs pour une grande partie. Mmh. L'idée, c'est de bien nourrir les animaux pour bien nourrir les hommes. Et en plus, bon, c'est quelque part un cercle vertueux parce que, par exemple, quand on fait de la luzerne, il y a très peu d'intrants sur une luzerne. Donc, quand on fait de la luzerne, c'est bon pour les chèvres, mais c'est aussi bon pour la nature. Ouais. Et la luzerne, c'est une source de protéines très intéressante aussi. Pour l'élevage.
Alors, on reconnaît facilement hein, les boîtes ou les emballages, c'est Pays des Murets. Hein, on voit l'étiquette Pays des Murets. Vous avez une chèvre ou un vache selon, évidemment, la provenance du lait. C'est très simple à retenir. Et puis, alors, les emplois, la diffusion, la qualité de la production, c'est le renouveau. paysdesmurets.fr pour l'adresse. Merci, Hélène.
Merci.
La semaine prochaine, nous serons dans le département de la Vienne, puis de l'Isère, et puis je rappelle en octobre, Drôme, Ardèche, Cantal, Lot pour les nouveaux candidats au jeu des 1000 euros et au carnet de campagne.